RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditeurs et auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. China International Import Expo est une bonne opportunité pour augmenter les exportations. Le président Joko Widodo est invité au Kazakhstan. Le commandant en chef de l'armée indonésienne reçoit la visite d'honneur de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis. La ministre indonésienne des Affaires étrangères invite les musulmans russes à répandre la paix. Le directeur général de l'information et de la communication publique, IKP, a dit « Lutter contre les canulars, il faut renforcer l'éducation aux médias et enfants. » La ministre Soucy et les hommes d'affaires nationales des pêches ont assisté à l'exposition aux États-Unis. Voici le journal complet. L'Indonésie participera à China International Import Expo 2018 qui se tiendra à Shanghai du 5 au 10 novembre 2018. Le directeur général du développement des exportations nationales du ministère du Commerce, Arlinda, a déclaré que la Chine était le principal partenaire commercial d'Indonésie avec la valeur commerciale de 58 milliards de dollars américains. La Chine est le plus grand marché d'exportation et d'importation pour l'Indonésie. À l'heure actuelle, l'Indonésie est encore en déficit commercial avec la Chine qui atteint 14,1 milliards de dollars américains. À cette fin, l'Indonésie renforcera la promotion du commerce, entre autres par China International Import Expo. Le ministère du Commerce mardi expliquait que cette exposition était la première organisée par le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois invite plus de 200 pays et 150 000 acheteurs à y participer. Dans cette exposition, l'Indonésie est l'un des quatre pays qui obtiennent le pavillon gratuitement. Selon Arlinda, c'est une excellente occasion pour l'Indonésie pour promouvoir les produits potentiels indonésiens.
Tapi ini artinya peluang yang bagus buat kita untuk bisa mengurangi defisit tersebut.
C'est une bonne opportunité pour nous de réduire le déficit. Nous essayons de participer et nous collaborons avec mes amis de Kadin d'Indonésie et l'Association des entrepreneurs chinois Indonésie et nous avons déjà réservé environ 1000 mètres. Selon Arlinda, après la participation à cette exposition, les produits phares de l'Indonésie seront promus sur le site web de l'expo. Le ministère du Commerce est en train de discuter des produits qui sont exposés au pavillon Indonésie. L'exposition des produits indonésiens sera divisée en trois zones telles que l'agriculture, les biens de consommation et le tourisme. Le ministère du Commerce coordonnera avec le gouvernement local de participer à exposer des produits de qualité supérieure. Les produits exposés comprennent le café, le palmier à huile, le caoutchouc et l'automobile. Le président Joko Widodo, accompagné du secrétaire d'État Pratikno et le président de l'Union de la coopération interparlementaire, UBK-SAP du Parlement indonésien, Nur Hayati Assegaf a reçu le président du Sénat de la République du Kazakhstan, Kasim Jomart Tokayev, ainsi que 8 autres délégations au Palais d'État Jakarta mardi matin. À cette occasion, le président a déclaré que l'Indonésie était le pays avec la plus grande population musulmane dans le monde. Cependant, l'Indonésie est un pays diversifié à la fois du côté religieux et ethnique. Le président du Sénat de la République du Kazakhstan, Kasim Jomart Tokayev, a déclaré « Son but d'arriver à Jakarta est d'inviter le président d'Indonésie à faire la visite d'État à Astana en octobre. » Il a également ajouté que l'invitation au président indonésien à la fois pour marquer la célébration de 25 ans des relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Kazakhstan. Le président de BKSAP du Parlement, Nur Hayati Assegaf, a déclaré « La délégation du Sénat du Kazakhstan a transmis une invitation du président du Kazakhstan au président Jokowi pour assister aux conférences politiques religieuses qui se tiendra le 10 et 11 octobre 2018 à Astana. » Lors d'une réunion avec la délégation du Kazakhstan, le président a demandé le soutien du Kazakhstan à la nomination de l'Indonésie comme membre non permanent du Conseil des sécurités des Nations Unies. Le commandant en chef de l'armée indonésienne, le maréchal Hadi Cahyanto, a reçu la visite d'honneur de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, Muhammad Abdullah Al-Ghafeli, à Cilangkap, Jakarta, mardi. La visite d'honneur peut être mise en œuvre officiellement après 20 ans et c'était un honneur pour le commandant en chef de TNI et pour tous les soldats de TNI qui sont de service dans toutes les régions d'Indonésie. La visite de l'ambassadeur devrait permettre d'accroître la coopération dans le domaine militaire entre l'Indonésie et les Émirats Arabes Unis. C'est ce qu'a déclaré le commandant en chef de TNI, le maréchal Hadi Cahyanto, lors de la réunion. Le commandant en chef de TNI a présenté l'industrie de défense stratégique à l'ambassadeur, entre autres la fabrication des armes SS-1 et SS-2 qui sont produites par Pindad et l'industrie des navires de guerre qui est produite par PT PAL, ainsi que des autres entreprises stratégiques qui peuvent probablement être la référence pour coopérer entre l'Indonésie et les Émirats Arabes Unis. Dans cette discussion, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis a beaucoup apprécié l'Indonésie pour donner l'exemple dans la tolérance et respecter parmi les personnes religieuses. Relatif à la question de la menace terroriste, il doit coopérer dans la lutte contre l'action terroriste qui peut être préjudiciable aux deux pays et au monde. Au cours de sa visite de travail à Moscou, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a invité les musulmans de Russie à répandre la paix et la tolérance. La ministre a débuté une visite de travail à Moscou en rencontrant le député de l'Union musulmane de la Fédération de Russie, Damir Gizatulin, à la Grande Mosquée de Moscou. Cela est indiqué par un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères qui a été reçu par Antara à Jakarta mardi. Lors de la réunion, la ministre a invité les musulmans en Russie et les musulmans en Indonésie pour répandre ensemble la paix et la tolérance. À cette occasion, elle a proposé aux députés de l'Union musulmane de la Fédération de Russie de procéder à des échanges de prêtres entre l'Indonésie et la Russie. En outre, la ministre Retno a transmis le plan du dialogue interreligieux entre l'Indonésie et la Russie à la fin de l'année et espérer un soutien du Conseil des Ulémas de Russie. Le directeur général de l'information et de la communication publique du ministère des Communications et de l'Informatique, Mme Niken Widyastuti, a déclaré que le peuple indonésien devrait renforcer l'éducation aux médias et les connaissances pour éviter les canulars. Selon Niken Widyastuti, 90% de la diffusion de l'information de canulars en Indonésie par le numérique. Cela a été dit Niken Widyastuti dans une discussion sur la lutte contre les canulars, l'intérêt national et la démocratie qui a eu lieu au bureau du conseil de presse mardi. Niken Widyastuti a affirmé que les résultats de la surveillance du ministère des Communications et de l'Informatique, Kemkominfo 2017, a détecté plus de 800 000 informations canulars ont répandu basées sur la collecte de données manuellement. Le cas de l'épandeur de canulars, Saracen, par exemple, possède plus de 800 000 faux comptes. Le bout des gens qui font des canulars, entre autres la provocation, l'incitation à la haine et la provocation de la colère et de la calomnie. Le ministère de la Marine et des Pêches, en collaboration avec des entrepreneurs de la pêche d'Indonésie, a participé à l'exposition Seafood Expo North America ou SENA 2008 à Washington DC récemment. À travers cet événement, les entrepreneurs ont la possibilité d'attendre un accord commercial prévoyant des transactions de produits de la pêche pouvant atteindre des centaines de millions de dollars américains. La ministre de la Marine et des Pêches, Josip Jastuti, dans une déclaration écrite à Compass.com, a déclaré mercredi, selon le calcul initial, la transaction potentielle des produits de la pêche indonésienne de 180 millions de dollars pour les trois prochains mois. Selon la ministre Josip Jastuti, il y a des représentants de 16 compagnies de pêche du pays qui ont participé à l'événement. 46 pays ont assisté à l'exposition Seafood Expo North America au SENA 2018. Elle a estimé que l'Indonésie avait une grande opportunité de promouvoir l'activité des produits de la pêche domestique, surtout après que l'état de l'habitat marin améliore conformément à l'interdiction de l'utilisation du cantrang. Cantrang est un outil de pêche actif avec l'opération touchant le fond des eaux. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La réunion des trois ulémas en Indonésie comme l'effort de réaliser la paix en Afghanistan ». En mars 2018 sera un mois historique pour l'Indonésie dans les efforts visant à ouvrir la voie à la paix en Afghanistan. L'ulema de l'Afghanistan rencontrera l'ulema du Pakistan, l'un des Allemands étant ulema de le Taliban. La réunion des ulémas des trois pays, à savoir l'Afghanistan, le Pakistan et l'Indonésie, est une forme de suivi de la visite d'État du président Joko Widodo et vice-président Yusuf Kalla en Afghanistan il y a quelque temps. Le plan de faire venir des ulémas de l'Afghanistan et du Pakistan a été discuté plus avant lors d'une réunion entre le vice-président Yusuf Kalla, la ministre des Affaires étrangères Madame Retno Marsudi et l'exécutif du Centre du Conseil des ulémas indonésiens la semaine dernière. Lors de la réunion, il a été décidé que ceux qui seraient invités à la réunion n'ont pas seulement du gouvernement mais aussi des talibans. Comme on le sait, le conflit armé en Afghanistan ne se résorbe pas, notamment avec la présence de la milice talibane et le mouvement Daulah Islamia. La question est de savoir si la réunion à Jakarta permettra de résoudre le conflit armé et la violence en Afghanistan. Le conflit armé en Afghanistan n'implique pas directement les ulémas. Le conflit sanglant qui a provoqué la mort innombrables civils s'est produit entre les forces de sécurité et la milice des talibans et le djihadiste Daulah Islamia. La présence étrangère en Afghanistan en raison de la sécurisation de la situation ne résout pas le problème. Le conflit en Afghanistan continue de se produire en raison de problèmes politiques et idéologiques. En termes d'idéologie ou d'approche religieuse, le rôle des ulémas doit être optimisé. C'est dans cette perspective que cette rencontre parmi les ulémas peut être un moyen d'apporter la paix en Afghanistan. Les ulémas en Afghanistan et au Pakistan peuvent voir les conditions en Indonésie et observer le rôle et la position des ulémas dans le maintien d'un état favorable dans le pays où environ 90 sont musulmans. Le résultat des discussions et des accords conclus lors de la réunion des trois ulémas à Jakarta pourrait constituer un nouveau point de départ pour le dialogue plus approfondi en Afghanistan. De la réunion à Jakarta, un dialogue plus approfondi est encore nécessaire pour discuter des questions techniques et des stratégies tactiques dans la réalisation de la paix en Afghanistan. la crédibilité et l'expérience de l'Indonésie en matière de pays pionniers au Cambodge, comme par exemple, peuvent servir d'exemple de la manière dont l'Indonésie a réussi à engager des pourparlers de paix qui pourraient éventuellement être réalisés. En outre, le rôle des éléments en Indonésie dans le maintien de l'environnement favorable et l'unité peut être un exemple concret comment les éléments jouent le rôle. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement La guerre éclate à Dien Bien Phu le 14 mars 1954. La grande bataille de Dien Bien Phu au Vietnam a éclaté le 14 mars 1954 qui a changé le destin des coloniales français en Indochine. Dans la Seconde Guerre mondiale, le Japon a occupé Indochine et expulsé le régime colonial dans la région. Après la guerre, l'armée française restait en Indochine et restaurait leur pouvoir. Cependant, l'occupation du Japon a donné l'occasion au peuple du Vietnam pour consolider son pouvoir et se battre contre les Français. La guerre à Dien Bien Phu a réussi à terminer la période coloniale française. L'autre information est sur la première élection parlementaire en Iran le 14 mars 1980. Cette élection a eu lieu après la création de la République islamique d'Iran. L'élection a eu lieu en marge de divers actes de provocation et de propagande des pays occidentaux contre l'établissement de la République islamique d'Iran. Le Parlement iranien se compose de 290 personnes et les écoles des minorités comme les chrétiens, les catholiques, les juifs, les zoroastriens ont le droit d'envoyer au minimum un représentant au Parlement. Nous finissons l'histoire aujourd'hui avec Mohamed Hatta est décédé le 14 mars 1980. Dr. Haji Mohamed Hatta est né le 12 août 1902 à Bukit Tinggi, Minangkabau, Sumatera Occidental. Il est un héros national d'Indonésie, homme, l'économiste et aussi le premier vice-président de l'Indonésie. Il a proclamé l'indépendance de l'Indonésie avec Sukarno en 1945 et devenu le premier vice-président. En 1926, Hatta dirige une délégation au Congrès démocratique international pour la paix à Biarville, en France. Le but de la délégation est de faire connaître le nom d'Indonésie. Mohamed Hatta a également servi comme premier ministre dans le cabinet Hatta I, Hatta II et la République d'Indonésie Serikat, ou RIS. Il a démissionné de son poste de vice-président en 1956 parce qu'il était en conflit avec le président Sukarno. Hatta est également connu comme le père des coopératives indonésiennes. Mohamed Hatta est mort à Jakarta le 14 mars 1980 pour la cause de maladie. Pour honorer comme héros, l'aéroport international de Jakarta nommé Soekarno-Hatta. Bung Hatta était désigné comme l'un des héros nationaux de l'Indonésie le 23 octobre 1986. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel de titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord Mon Indonésie.
Indonésiaku, Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, c'est temps maintenant pour nous de vous présenter Mon Indonésie et pour le titre, la facilité d'emploi pour encourager l'investissement. Le ministère des Finances finalise 4 nouvelles règles qui seront adoptées dans les prochaines semaines. L'objectif est d'accroître l'investissement comme exprimé par le président Joko Widodo dans l'objectif de croissance économique en 2018. C'est ce qu'a affirmé la ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, après la réunion de la coordination. Les 4 règlements concernent tax holiday ou les incitations fiscales sous la forme d'exemption d'impôt sur le revenu, tax allowance ou l'octroi de déduction fiscale, l'impôt des petites et moyennes entreprises PME et les incitations pour les entreprises qui mènent la recherche et le développement ainsi que la vocation. Tax holiday et tax allowance sont une forme d'incitation fiscale pour l'entreprise en tenant compte du montant de l'investissement investi. Pour tax holiday, la discussion est presque terminée et nous attendons seulement les critères de l'industrie qui peuvent bénéficier de la politique. Les produits de réglementation pour tax holiday seront sous la forme d'un règlement du ministre des Finances, PMK. Sri Mulyani a déclaré que la limite d'investissement pour tax holiday serait abaissée à 500 trillions de rupiah auparavant. La réduction est sans limitation des affaires liées aux télécommunications. En ce qui concerne tax allowance, Sri Mulyani a dit les étapes déterminées seulement que le groupe d'affaires qui peut profiter de la facilité et ses produits seront faits sous la forme de règlement du gouvernement. Sri Mulyani espère, avec le passage de ces 4 règles plus tard, pour effectivement encourager la croissance des niveaux d'investissement, à la fois à grande et petite échelle. Jusqu'à présent, avant que les 4 règles ne soient pas appliquées, l'Indonésie n'est toujours pas considérée comme maximisée en intensifiant les investissements. Selon Sri Mulyani, l'Indonésie a un caractère économique diversifié. La diversification est énorme. Par conséquent, le gouvernement doit attirer des investissements à forte intensité de main d'œuvre orientés vers l'exportation et petites et moyennes entreprises. Serviteur, c'était Mon Indonésie pour ce soir. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. China International Import Expo est une bonne opportunité pour augmenter les exportations. Le président Joko Widodo est invité au Kazakhstan. Le commandant en chef de l'armée indonésienne reçoit la visite d'honneur de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis. La ministre indonésienne des Affaires étrangères invite les musulmans russes à répandre la paix. Le directeur général de l'information et de la communication publique, IKP, a dit lutter contre les canulars, il faut renforcer l'éducation aux médias. Et enfin, la ministre Susi et les hommes d'affaires nationales des pêches ont assisté à l'exposition aux États-Unis. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau dans Le Magazine Culturel. Aujourd'hui, nous vous présentons le rituel de Ndetok Ni. Alors, soyez toujours avec nous. Vous pouvez suivre l'émission de la Voix d'Indonésie, le service international de RRI, soit sur Onkut, soit vous pouvez nous écouter sur www.voinews.com. À Nusa Tenggara Est, précisément au hameau de Sambiku, le village de Watungene, sous communauté de Kotakomba, la résidence de Mangara Est, Flores, il y a la tribu de Seso, dont les ancêtres venaient de l'Inde. Dans le passé, les ancêtres de la tribu Seso a navigué à l'aide de trois bateaux de l'Inde et a amarré à Lengelapu, maintenant l'estuaire de Waemmokel. Ils vivaient ensuite à le hameau de Sambiku. Jusqu'à présent, la tribu Seso a toujours conservé leur tradition ancestrale. L'une d'elles est le rituel de Ndetox Ni qui va vous présenter maintenant. Ndeto Ni est un rituel pour bénir traditionnellement les graines de maïs et de riz avant d'être plantées au Cham. Ce rituel est maintenant à une maison traditionnelle de la tribu de Seso à le hameau de Sambiku par le chef traditionnel de la tribu Seso. Ce rituel a lieu chaque année avant la saison de plantation en décembre. Si le rituel n'est pas tenu, les graines ne pousseront pas. Même si les graines se développent, les résultats ne seront pas abondants. Le rituel est généralement mis en œuvre à la fin de novembre. En 2015, ce rituel a eu lieu lors de la période de la saison de plantation en décembre 2015. Avant la mise en œuvre de ce rituel, la tribu de Seso coupe les herbes sur le terrain pour planter des semences de maïs et de riz. Ce champ n'est pas loin du hameau de Sambiku. Lors du jour de la mise en œuvre du rituel de Ndetox Ni, tous les villageois de la tribu Seso sont venus à la maison traditionnelle en transportant de la nourriture. Certains villageois apportent des bois de feu, des boissons, des graines de maïs et de riz. Lorsque les villageois ont discuté dans la maison traditionnelle, l'hôte servit l'alimentation typique de Manggarai Est, à savoir Jojong Dao. Jojong Dao est cuit en utilisant les wintana ou en pot d'argile. Jojong Dao est fabriqué à partir de manioc et mélangé avec gola colang ou sucre de palme qui est pris de cocotier. Jojong Dao est hors d'œuvre pour les invités à la maison traditionnelle. Après avoir dégusté le plat, le chef traditionnel de la tribu Seso a commencé à tenir le rituel Ndetox Ni. Avant la mise en œuvre du rituel Ndetox Ni, les matériaux du rituel sont préparés d'abord, comme les graines de maïs et de riz, le coq et le riz. Tous les matériaux sont mis dans bakul, un panier en bambou. Le chef traditionnel de la tribu Seso lit le mantra traditionnel pour bénir les semences qui ont été mises dans bakul en tenant le coq. Après avoir lu le mantra, le coq a été abattu. En plus de sang de poulet, les graines de riz et de maïs, les outils nécessaires pour planter ces graines, sont également placés dans Watunurung ou en récipient des offrandes pour les ancêtres. Après cela, le chef traditionnel verra le mamanouk ou la langue de poulet. De la langue de poulet, le leader va voir si la nature accepte le rituel ou non. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir avec le titre « Le rituel Ndetox Ni en Provence de Nusa Tenggara Est ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique « Apprendre l'indonésien », un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler l'indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Janji bertemu », je répète, « Janji bertemu » ou en français « Rendez-vous ». Je vais donner un exemple de conversation entre Tony et Heru et je vais prononcer lentement, phrase par phrase, deux fois. Vous pouvez répéter après moi. Tony, allô, allô, en français, bonjour. Heru, allô Tony, besok bisa bertemu. Allô Tony, besok bisa bertemu. En français, bonjour Tony, pouvons-nous rencontrer demain? Tony, tentu, jam berapa? Tentu, jam berapa? En français, bien sûr, à quelle heure? Heru, jam 4 sore setelah saya bekerja. Jam 4 sore setelah saya bekerja. En français, à 4 heures après le travail. Tony, ya bisa. Ya bisa. En français, d'accord. Heru, baik, sampai ketemu besok. Baik, sampai ketemu besok. En français, bien, à demain. Comme d'habitude, je vais présenter le vocabulaire et expressions reliant à la conversation d'aujourd'hui. Besok bisa bertemu. Besok bisa bertemu. En français, pouvons-nous rencontrer demain? Tentu, jam berapa? Tentu, jam berapa? En français, bien sûr, à quelle heure? Jam 4 sore setelah saya bekerja. Jam 4 sore setelah saya bekerja. En français, à 4 heures après le travail. Ya bisa. Ya bisa. En français, d'accord. Sampai bertemu besok. Sampai bertemu besok. En français, à demain. Pour prendre rendez-vous à rencontrer un ami, vous pouvez demander besok bisa bertemu. Besok bisa bertemu. En français, pouvons-nous rencontrer demain? Ou bisa bertemu besok? Bisa bertemu besok. En français, peut-on se rencontrer demain? Lorsque vous parlez en langue indonésienne, si vous demandez, terminez votre phrase avec une intonation croissante. Comme par exemple, besok bisa bertemu. Besok bisa bertemu. En français, demain peut-on se rencontrer? D'autres exemples. Bisa bertemu hari Selasa. Bisa bertemu hari Selasa. En français, peut-on se rencontrer le mardi? Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique musicale. Dans cette édition, nous allons vous présenter des chansons de groupe musique Musikimia. Chers amis, pour commencer le rencontre aujourd'hui, je vous présente une chanson intitulée « Si ça devrait être comme ça » chantée par Musique Kimia. Bonne écoute. Chers amis, voilà la chanson intitulée « Si ça devrait être comme ça » chantée par Musique Kimia. C'est la première chanson du groupe Musique Kimia qui a été formée en 67e jour de l'indépendance de la République d'Indonésie, le 17 août 2012. Il y a quatre membres de Musique Kimia, ce sont Fadli comme chanteur, Rindra bassiste, Yoyo batteur et Stefan Santoso guitariste. Bon, chers amis, écoutez maintenant d'autres chansons de Musique Kimia intitulées Russie. Bonne écoute.
Di suatu masa mendatang, pohon-pohon sudah tak bergembira. Hutan menggundul sendiri seperti disulap dan tak peduli. Why you cegah pohon tumbang? Oh yeah.
terasa lebih keras. Sungai buat jalan baru, karena pohon kita tak sekuat dulu. Ayo bikin benteng lagi. Oh yeah. Hijaukan kotamu, tanamlah. Cemaran udara kotor, berikan dia buaya yang dapat diambil dari udaranya. Ayo kita tanam pohon. Oh yeah. Bayangkan indahnya bila di kotamu rindang dan sejuk nikmat. Kau selalu bisa berteduh dan manjakan dirimu di sana. Ayo kita wujudkannya. Oh yeah. Hijaukan kotamu, tanamlah pohon untuk masa depan. Ajarkan anakmu untuk selalu mencintai hutan. Lakukan sekarang. Hatiku nanti bila anakku mati karena banjir longsor pada obat kimia. Hutan menjadi pemandangan langka dan hewan pun sedih hidup di balik besi. Besi. Besi.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter des chansons indonésiennes chantées par groupe de musique Musique Kimia. Ce groupe de musique a lancé une première chanson intitulée L'Indonésie et en 2013 et ensuite en 2016, il a sorti le deuxième album intitulé Intersaison. Bon, chers amis, voilà l'édition du magazine musical pour aujourd'hui avec le groupe musical Musique Kimia. Avant de terminer notre rencontre, on écoutera les deux dernières chansons intitulées et chantées et aussi C'est ma poitrine. Tous les deux sont chantés par Musique Kimia. Merci à tous et au revoir.
Saat dirimu terhanyut dalam seri yang kau rasakan seperti mendung hitam. Cobalah engkau sadari bahwa hidup ini terlalu indah untuk kita ngisi. Ooh, saat jiwamu terlarut dalam gundah dan seakan tiada jalan keluar. Cobalah engkau pahami bahwa hidup ini terlalu singkat untuk disesali.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Kita masih punya semangat. Inilah dadaku, di mana dadamu. Tunjukkan dada kita, kita masih punya semangat. Hei sahabat, buka matamu, derapkan langkah ke depan. Tunjukkan pada dunia, kita bukan bangsa yang lemah. Kita akan berjuang bersama, tetapkan tekad untuk tetap bersatu. Oh sadarkah kita semua, bahwa mental ini harus sekuat baja. Jangan pernah mencoba, lupakan sejarah, bahwa kita ini bangsa yang besar. Dan di tangan kita, tetap bersatu melawan segala bentuk penindasan di atas bumi pertiwi.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.